Bonjour, bonjour tout le monde. Peut-être monter un petit peu le... Merci de m'entendre. Alors, voilà le défi pour nous ce matin, de regarder ensemble Éphésiens. Et oui, je recommence l'épître aux Éphésiens, qui n'est pas terminée. Éphésiens, que nous avons déjà vu jusqu'au chapitre 6 et verset 9. Merci Stéphane. Pour la technique, et nous allons regarder donc à partir du verset 10, nous allons lire verset 10 à 20, mais en fait nous allons regarder ce matin simplement le verset 10. Alors Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaissance, connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Prions s'il vous plaît. Notre Père, nous te demandons instamment ta bénédiction sur ta parole. Donne-nous des cœurs attentifs. Donne-nous d'être des auditeurs qui ne soient pas oublieux mais qui cherchons à mettre la parole en pratique. Et ce matin, Seigneur, fais-nous la grâce d'expérimenter ta force et ta puissance dans nos vies. Donne-nous la révélation de ce que c'est que d'être fortifié, d'être fort en Jésus, et ainsi de pouvoir combattre le bon combat de la foi. Seigneur, puisses-tu nous armer toi-même, nous revêtir de toutes ces armes et combattre le bon combat de la foi, comme des soldats de Jésus-Christ. Seigneur, nous plaidons ta grâce dans nos vies. Nous plaidons ta plénitude. Nous plaidons, Seigneur, la foi pour ce combat, pour la victoire que tu nous as déjà acquise, que nous expérimentons jour après jour par ta puissance. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, le verset que nous allons voir regarder ce matin, c'est au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Qui n'a pas besoin de la puissance de Dieu dans sa vie? En fait, nous allons regarder et continuer à regarder l'épître aux Éphésiens. Nous avions pris un certain temps pour prêcher dimanche après dimanche à partir du premier verset et nous en sommes rendus à chapitre 6 et verset 9, et on a vu dans les trois premiers chapitres ce que nous avons, ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est la partie théorique, théologique de l'Épître, et nous avons ensuite regardé au chapitre 4, 5 et 6, la partie pratique de l'Épître, qui sont les trois donc, derniers chapitres, qui montrent notre condition. Les trois premiers chapitres parlent de notre position en Christ, ce que nous sommes en Christ, et les trois derniers chapitres nous parlent de ce que nous devons être en Christ, autrement dit, être ce que Dieu déclare que nous sommes. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et nous sommes bénis, et nous pouvons, en tant que croyants, nous attendre à toutes sortes de bénédictions de la part du Seigneur Jésus-Christ. En fait, lorsque nous avons regardé notamment les premiers chapitres, nous avons vu ce que nous avons en Christ et l'expression « en lui » est une des expressions clés, du moins du premier chapitre. Et Paul prie pour que les yeux de ces Éphésiens soient illuminés afin qu'ils découvrent justement tout ce qu'ils sont en Christ, de ce que Dieu leur a donné en Christ, notamment le salut. Et ensuite, il parle de l'unité de l'Église, le mystère révélé. Et ensuite, il parle de la marche en toute humilité, la marche dans l'unité, la marche opposée aux païens, la marche en nouveauté de vie, la marche dans l'amour, la marche dans la lumière, la marche dans la sagesse, la marche dans la plénitude du Saint-Esprit, et qui se manifeste dans les relations entre frères et sœurs au sein de l'Église, entre mari et femme au sein du foyer, entre enfants et parents, entre parents et enfants, entre maîtres et serviteurs, entre serviteurs et maîtres. Et on dirait, mais c'est magnifique la vie chrétienne. Sauf que comme quelqu'un a dit, c'est magnifique, c'est comme un bouquet de fleurs ou de roses, mais il faut dire qu'il y a quelques épines. Et d'entremarche avec le Seigneur, parfois nous faisons face à des tentations, à des obstacles, à de la pression, voire de l'oppression de l'adversaire, où nous n'aimerions pas connaître ce combat. Nous n'aimerions pas réellement vivre dans ce combat. Mais malheureusement, le jour où on accepte le Seigneur, on découvre Jésus-Christ et on découvre celui qui nous maintenait dans l'esclavage du péché et même parfois dans les liens des ténèbres démoniaques qui est le diable lui-même. Et nous découvrons que par le salut en Christ, oui, nous sommes morts au péché, nous sommes vivants en Christ, nous allons être ressuscités avec lui. Nous avons la promesse de la vie éternelle, gloire au Seigneur Jésus pour cela, mais nous découvrons qu'il y a un adversaire. Nous l'ignorions avant, nous étions comme ses esclaves et nous étions enténébrés, nous étions aveugles que le Satan avait une certaine puissance dans nos vies. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a converti l'apôtre Paul, il a dit « Je t'envoie afin qu'il passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à celle de Dieu ». Satan a une puissance, mais Dieu a tout déjà gagné en Christ et nous sommes vainqueurs en Christ, mais il n'empêche pas moins que le diable encore, dans la souveraineté et les plans éternels de Dieu, a encore une puissance et Dieu permet qu'il nous combatte, nous les enfants de Dieu. Donc malgré nous, nous sommes dans un combat spirituel. Reconnaissons parfois que face à l'ennemi, nous sommes tourmentés, nous sommes affaiblis, nous combattons peut-être dans nos propres forces, mais l'apôtre Paul ne pouvait pas terminer cette épître aux Éphésiens sans nous parler de ce combat, afin de nous avertir, oui, qu'il y a un vrai combat, mais que nous avons les armes nécessaires, les ressources nécessaires pour combattre le bon combat de la foi. Comme disait Paul à Timothée, combat le bon combat de la foi. Dans le verset 10, ici, il y a ce qu'on pourrait appeler la préparation au combat. Cette puissance de Dieu qui nous est mise à notre disposition pour faire face à l'ennemi. Dans les versets 11 au verset 17, on peut parler de l'ennemi du croyant. On va parler dans les prochains messages du diable, son origine, sa nature, que l'on découvre au travers notamment de ses divers noms, sa puissance, ses ruses et même son armée, qu'on appelle les démons. Et nous allons parler de l'armure du croyant, les six armes que le Seigneur a laissées à la disposition du croyant, justement pour être vainqueur face à l'ennemi dans ce combat spirituel. Et nous allons parler enfin de la ressource du croyant, versets 18 à 20, qui est évidemment la prière. Et si Dieu le permet, nous aurons aussi un message qui parlera des accès que le croyant peut laisser au diable dans sa vie. Alors, la Bible dit au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. J'aimerais vous lire la traduction dans la parole vivante, et je trouve que c'est intéressant, et ça va nous mettre sur le bon chemin de nous préparer à combattre le bon combat de la foi. Il est écrit, c'est une autre traduction, pour conclure, c'est l'équivalent au reste, c'est la conclusion de l'épître aux Éphésiens, « Devenez des chrétiens forts ». Dans la question que laisse le Seigneur ce matin, dans nos esprits à réfléchir peut-être ces jours-ci, est-ce que vraiment je suis un chrétien fort ou suis-je faible? Alors j'ai une ressource qui est le Seigneur pour devenir fort, parce que la Bible dit même « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même. C'est le danger de la vie chrétienne d'essayer de vivre la vie chrétienne par ses propres forces. Nous en sommes incapables. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est merveilleux cela. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie, nous dit cette traduction. L'apôtre Paul disait en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Paul disait aussi en Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Oui, nous avons besoin, frères et sœurs, d'être fortifiés parce que nous combattons un combat spirituel qui peut être simplement gagné par la présence de Jésus-Christ lui-même. Si nous ne nous mettons pas en lui, alors nous allons être défaits. Il y a en réalité le fait que Satan est déjà vaincu. Nous sommes dans la position de vainqueur. Ça, c'est notre position. Mais dans notre condition, si vous regardez les 6 lettres de l'Église, adressées aux Églises dans l'Apocalypse, dans les 6 premiers, dans les premiers chapitres, vous verrez que Dieu appelle à chaque Église à être vainqueur, à celui qui vaincra. Dieu désire que son peuple soit un peuple de vainqueurs. Je pense à 1 Corinthiens 15, versets 56-57, où Paul dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » À la croix, Jésus a tout gagné. Par sa résurrection, il a tout gagné. Et nous sommes associés à sa victoire, étant ensevelis en sa mort et en sa résurrection. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Hébreux 2,14, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, Dieu nous dit que nous sommes vainqueurs sur le diable. Il n'empêche pas moins que sur cette terre, nous sommes exposés à de perpétuelles batailles contre la tentation. La puissance du Seigneur, la force de son esprit et la lecture de la parole et les vérités bibliques sont indispensables à connaître pour vivre la victoire de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Soyez forts ce matin, soyez forts, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Ici, c'est un impératif à la mode passive et au temps présent. Ça veut dire que nous avons besoin, tous les jours, c'est un temps présent, continuellement, de nous ressourcer pour être forts dans le Seigneur. Ensuite, ce n'est pas une option facultative, c'est un impératif. Fortifiez-vous à la voix passive, dans le sens qu'on pourrait dire « fortifiez-vous » ou « soyez fortifiés ». C'est bien le Seigneur et le Saint-Esprit qui peuvent vraiment nous fortifier. Je ne sais pas vous, mais parfois je me sens tellement faible, tellement incapable, où j'ai besoin de me mettre à genoux, de supplier Dieu, voire de jeûner et de prier, chercher la face de Dieu, parce que seulement en lui, nous avons tout pleinement et la victoire face à l'ennemi. Alors ce matin, Dieu nous dit, peuple de Dieu, fortifie-toi. Chrétien, qui que tu sois, fortifie-toi, parce que tu as une ressource immense qui est le Seigneur lui-même. Je pense à Josué, peut-être vous avez déjà pensé à cela, en même temps que je disais, que je accentuais l'idée de se fortifier. Qu'est-ce qu'a dit Dieu à Josué devant la conquête de Canaan? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'un combat, c'est difficile. Qui a envie de partir joyeusement à la guerre? Personne. Nous sommes placés dans ce combat malgré nous-mêmes. L'ennemi nous attaque, surtout si nous sommes des chrétiens vivants et nous voulons progresser dans le Seigneur. Au contraire, plus nous allons avoir des victoires, plus nous allons avancer avec le Seigneur, plus le Seigneur va nous donner des responsabilités, plus l'ennemi va nous attaquer. Nous avons besoin de nous fortifier et comme Josué avait besoin de fortifier pour succéder à Moïse, le Seigneur lui a dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Canaan ne représente pas le salut pour le croyant. Canaan représente la victoire dans les lieux célestes à laquelle Dieu nous appelle à reconquérir le terrain perdu peut-être dans nos cœurs, conquis par le diable ou dans ce monde. Nous allons à la conquête de notre propre cœur, nous allons à la conquête de ce monde perdu parce que nous sommes bénis déjà dans les lieux célestes et c'est ça notre Canaan, les richesses promises déjà de la part de Dieu, mais nous devons les gagner par la foi. C'est déjà acquis, c'est notre position, mais nous devons les vivre par la foi. Et je pense que Josué est un peu fébrile et fragilisé face à cette grande tâche de conquérir Canaan, de diriger ton peuple. Et Dieu lui recommande encore une fois dans ce verset, certainement, vous aussi, vous avez lu cela avec moi, « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Deux fois dans ces versets, Dieu ordonne à Josué de se fortifier. Et même il y a une troisième fois. Il est écrit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Trois fois, le Seigneur est obligé de lui dire, fortifie-toi. Jusqu'à ce qu'un peu plus tard, dans le même chapitre, on voit Josué qui s'adresse au peuple et qui dit, fortifiez-vous. En fait, un chrétien fort peut aussi fortifier les autres parce qu'il a gagné la force de la part de son Seigneur, si faible soit-il. Alors, nous avons pour ambition ce matin, j'espère que nous aurons assez de temps, de regarder ce que c'est que de se fortifier et pourquoi d'abord le chrétien a-t-il besoin de se fortifier. Et ensuite, comment le chrétien doit-il se fortifier? Je ne sais pas vous, je reconnais humblement qu'en ayant lu ce verset et l'épître aux Éphésiens, je ne sais plus combien de fois dans ma vie, depuis que je suis croyant, c'est une épître assez extraordinaire, n'est-ce pas? Si vous êtes passionné de la Bible, vous allez être passionné par l'étude, et notamment l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Mais ce petit verset, combien d'entre nous le vivons réellement? Il y a quelques difficultés à comprendre et appliquer surtout dans nos vies ce qu'est la force du Seigneur. Pourtant, nous en avons tellement besoin, faibles comme nous sommes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi donc avons-nous besoin de se fortifier ou d'être fortifié? Parce que nous sommes dans un combat. C'est la réalité de la vie chrétienne. Nous sommes placés dans un combat spirituel malgré nous-mêmes. Même si nous ne le voulons pas, nous sommes placés dans ce combat. Encore une fois, Paul dit à Timothée, ceci, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. On pourrait, en tant que chrétien, perdre son temps et combattre pour d'autres raisons que la cause du Seigneur. Et finalement, s'affaiblir pour des raisons qui ne sont pas le vrai sens de notre vie sur terre. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui? Pourquoi allons-nous la vivre? Si nous la vivons pour le Seigneur Jésus-Christ, oui, nous allons certainement devoir combattre l'adversaire. J'aimerais dire aussi que dans ce contexte de l'Épître aux Éphésiens, qui est magnifique et où Paul nous dit tout ce que nous avons en Christ, ce que nous sommes et comment nous devons marcher, même remplis du Saint-Esprit, il n'empêche pas moins que c'est un combat d'une grande envergure. Car lorsque Dieu commence à bénir, Satan passe aussitôt à l'attaque. Et une des choses qui est assez difficile à vivre en tant que vie chrétienne, en tant que nouveau-né, c'est de réaliser que oui, il y a ce combat spirituel. J'aimerais vous lire ce que un commentateur, John MacArthur, pour ne pas le mentionner, a dit au sujet de cette réflexion, il dit, si nous marchons d'une manière digne de notre vocation, dans l'humilité plutôt que dans l'orgueil, dans l'unité plutôt que dans la division, dans l'homme nouveau plutôt que dans le vieux, dans l'amour plutôt que dans la convoitise, dans la lumière plutôt que dans les ténèbres, dans la sagesse plutôt que dans la folie, dans la plénitude de l'esprit plutôt que dans les excès de vin et dans la soumission mutuelle plutôt que dans l'indépendance intéressée, nous pouvons être certains que nous rencontrerons opposition et conflit. Bienvenue au combat du Seigneur. Je pense à ce verset quand j'ai médité tout ce passage et j'ai réfléchi sur ce que j'allais partager avec vous. Il y a souvent un verset qui m'a encouragé dans ma vie. Le cheval est préparé pour la victoire, pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. On peut s'équiper, on peut penser être prêt, mais il n'empêche pas moins que nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui accorde la victoire, d'où la nécessité de regarder à lui et de combattre le bon combat de la foi avec lui, jamais sans lui. Lui seul donne la victoire. Le Seigneur Jésus, non seulement c'est une réalité dans le croyant, mais le Seigneur Jésus lui-même a dû combattre le diable. Quand nous lisons les Écritures, il y a au moins deux moments terribles où Jésus a dû combattre l'adversaire. Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4 aussi, où Dieu dit qu'il a envoyé Jésus-Christ par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté. Et la ruse du diable, on sait qu'il a joué sur la convoitise des yeux de la chair et l'orgueil de la vie, mais la ruse du diable essentielle, c'était de rendre Jésus non plus dépendant de Dieu le Père, mais tout d'un coup à l'écoute de la voix du diable. Satan a pour ruse de nous faire croire que Dieu nous aime plus et que nous pouvons être indépendants de Dieu. Mais c'est faux. Nous sommes complètement dépendants de Jésus-Christ une fois qu'on l'a accepté sur cette terre. Peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous voulons faire, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ et rester attachés à lui. Et Jésus a résisté au diable par la parole de Dieu et finalement le diable l'a laissé. Et vous connaissez certainement ce moment terrible en Luc 22 ou en Matthieu où Jésus combat avant la crucifixion et dans le jardin de Gethsémané, à tel point qu'il a même sué du sang, toutefois non pas ma volonté mais la tienne, il a regardé à la croix, il a eu ce combat terrible alors que le diable s'acharnait sur lui. Mais Dieu a transformé le mal en bien et on sait que par la crucifixion et la croix de notre Seigneur, nous pouvons être sauvés si nous le recevons dans nos vies. Alors cela nous montre que même si Jésus a été éprouvé par le diable, nous ses serviteurs, nous allons aussi l'être éprouvés. Et même si Jésus a été éprouvé dans le désert et ensuite à Gethsémané, il semble que plus on se donne dans le Seigneur, plus on grandit dans le Seigneur, plus on peut même être attaqué par le diable. En fait, le ministère n'est jamais facile. Nous voulons, l'activité chrétienne n'est jamais facile. Vous trouvez facile de lire la Bible ? Vous trouvez facile de vous mettre à genoux et passer une demi-heure, une heure à prier ? Vous trouvez facile de témoigner du Seigneur Jésus ? Peut-être il y a des moments particulièrement plus faciles, mais en général, reconnaissons que si la grâce du Seigneur Jésus n'est pas en nous, et si on ne laisse pas la grâce du Seigneur nous envahir, l'activité spirituelle du croyant a souvent des obstacles à surmonter. Parce que le diable ne veut pas que le croyant soit fort. Un chrétien faible ne témoigne plus, afin que les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Un chrétien faible est faible dans son service pour le Seigneur. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le monde, mais contre le diable lui-même. Et plus nous allons servir le Seigneur, plus nous allons avoir des difficultés à surmonter face au diable. La preuve, même l'apôtre Paul, lorsqu'il a fondé l'épître aux Éphésiens, il a commencé à prêcher l'évangile, il a conduit au Seigneur des disciples, les disciples de Jean-Baptiste. Il est resté 3 mois dans la synagogue, puis dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, il nous est écrit dans Actes, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. À chaque bénédiction de Dieu, il y a une opposition de l'ennemi. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez étudier que oui, l'Église réformée, la réforme, a créé un réveil extraordinaire en Europe. Amen. Oh, c'est pas fort ça. Amen. Lisez l'histoire de la réforme. Si nous avons des Bibles aujourd'hui, nous avons un témoignage historique à suivre, des témoins qui ont été prêts à mourir pour Jésus-Christ. Mais en étudiant l'histoire, qu'est-ce que nous étudions ? Qu'il y a eu la contre-réforme. Il y a eu une contre-réforme qui a persécuté les vrais croyants. Le diable suscite toujours une opposition à la bénédiction de Dieu. après avoir conduit bien des gens au Seigneur, et même ceux qui étaient liés au diable parce qu'ils brûlèrent leurs livres, parce qu'ils étaient des livres de magie, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, il a rencontré toutes sortes, dès le début d'opposition. Les dirigeants juifs incrédules ont chassé la synagogue, des exorcistes apostats juifs ont tenté de l'imiter, et Démétrius et les autres orfèvres dans le commerce des idoles souffraient à cause de son ministère, en ont voulu à sa vie, parce qu'ils avaient délivré une femme d'un esprit de Python. Ainsi, il faut accepter que nous sommes dans un combat spirituel. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas simplement les enfants et les serviteurs de Dieu, nous sommes aussi ses soldats. Et le travail d'un soldat, c'est de combattre l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ est l'armée du Seigneur sur terre. Même les anges combattent pour le Seigneur face au diable. Si vous lisez en Daniel, vous allez voir qu'il y avait un ange qui s'opposait à la réponse de Dieu par l'archange Michel. Même Paul dit constamment et avertit. Il dit ceci en 1 Thessaloniciens 2:18, « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » Tout simplement, j'ai voulu vous démontrer, au travers de l'exemple de Jésus-Christ, du combat de l'apôtre Paul, que oui, nous sommes nous-mêmes placés dans un combat spirituel. Notre besoin d'être fortifié est quotidien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Ce n'est pas « vous avez été fortifié, vous serez fortifié », c'est un impératif présent, c'est quotidiennement que nous avons besoin d'être fortifiés. Pourquoi avons-nous besoin d'être fortifiés, frères et sœurs? Je pense que c'est à cause de notre grande faiblesse. Nous sommes extrêmement faibles par nous-mêmes. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais par quelle force humaine pourrions-nous combattre celui qui a une certaine puissance et ses démons qui ont une certaine puissance, si ce n'est par la puissance même de Jésus-Christ. Mais nous avons besoin d'apprendre à nous confier en Christ pour notre marche chrétienne, quotidienne, et lui remettre notre faiblesse. J'ai pensé donner comme exemple celui de l'apôtre Paul à nouveau. L'apôtre Paul était persécuté. On ne sait pas trop exactement les chars de la chair qu'il avait, si c'était physique ou c'était l'opposition d'hommes qui s'opposait à son ministère. Et vous savez qu'il a demandé à Jésus que cette écharde s'éloigne, cette souffrance spirituelle qu'il avait s'éloigne de lui. Et qu'est-ce que lui a répondu le Seigneur ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Est-ce que vous êtes arrivé, moi je pense que je ne suis pas arrivé là, est-ce que vous êtes déjà arrivé à dire oui, je me plais dans les faiblesses? Parce qu'à ce moment-là, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand nous avons des épreuves ou l'opposition, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons bouder. Nous pouvons nous mettre dans un coin, nous pouvons nous rebeller contre Dieu, nous pouvons mal réagir. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Je suis éprouvé, gloire à Dieu, je suis faible, mais lui est fort. Vous vous rendez compte à quel niveau de passion de Jésus-Christ dans sa vie il était arrivé? Je suis fort, lui est fort, je suis faible, mais c'est quand je suis faible qu'il est alors fort. Et c'est la grande leçon, reconnaissons-le dans nos vies, de l'humiliation que Dieu permet. Combien de fois Dieu permet que nous soyons si faibles, incapables, que nous découvrions toujours et à nouveau ce que Jésus a dit en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. » C'est-à-dire, ce n'est pas une option. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis faible, mais lui est fort. » On n'a pas eu le temps de chanter faute de temps, j'ai remarqué le cantique était choisi avant le message, mais je vous le lis. Veux-tu du péché briser le pouvoir? Je suis fort, on chante, je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du péché briser le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alors peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, et qui est dans un combat, face à sa chair peut-être, ou même l'ennemi, ben, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller à Jésus, et qui nous rend fort par le salut en lui, par son esprit. Veux-tu braver et la mort et l'enfer ? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus, d'un mot, fait tomber tous les fers. La force est dans le sang du Christ. La délivrance, c'est Jésus qui l'accorde. Non seulement nous avons besoin d'être fortifiés à cause de notre faiblesse, mais j'ai marqué aussi à cause de notre impuissance totale dans le domaine spirituel. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas que la sève, nous pouvons la produire, c'est que la sève doit venir de Christ. C'est dans la communion avec Jésus-Christ que le Saint-Esprit coule dans nos vies, dans sa puissance et sa plénitude, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons, troisièmement, une tâche à accomplir qui nous dépasse complètement. Qui est suffisant pour cette tâche? Le Seigneur Jésus a dit notamment, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est le mandat de Jésus-Christ pour son Église. Mais avant, il a dit, « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis plus loin, il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si ce n'était pas son pouvoir qui nous a été délégué, sa puissance que nous pouvons avoir et sa présence, nous ne pourrions pas amener des âmes au Seigneur. Nous ne pourrions pas accomplir la mission de Dieu. Et nous avons besoin, comme Josué, de nous tenir devant Dieu et d'entendre le Seigneur qui nous dit, « Fortifie-toi, combat le bon combat de la foi, va et fais de toutes les nations disciples, parce que le monde est perdu. » Il y a un vrai combat et l'enjeu, c'est le salut des âmes. C'est le ciel ou l'enfer. C'est une réalité. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne contre nous. Mais nous avons besoin à faire la conquête du monde et à être prêts à être des vainqueurs, des soldats vaincus, mais vainqueurs pour le Seigneur. Brisés, mais qui brillent pour le Seigneur. Sauvés, mais qui servent le Seigneur. Cette promesse nous a déjà été acquise dans le Seigneur en sa mort et sa résurrection. Et enfin, un dernier point, pourquoi est-ce que nous devons nous fortifier ? Parce que le Seigneur, non seulement nous le commande dans le Nouveau Testament, fortifiez-vous dans le Seigneur pour se préparer à ce combat ou demeurer ferme face au combat, mais aussi parce que Dieu nous ordonne d'être puissants. Psaume 68, verset 29, je ne sais pas vous, mais des fois on lit les Écritures et il y a comme un verset qui nous saisit. Dieu dit ceci, ton Dieu ordonne, ah c'est pour moi aussi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu veut que chaque enfant de Dieu soit fort en lui. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et puis dans l'Apocalypse, je vous l'ai déjà dit, dans les différents messages adressés aux églises, il y a l'idée d'être vainqueur. Dieu veut que son peuple soit vainqueur. Est-ce qu'il est possible d'être vainqueur? Oui, en se fortifiant. Alors comment se fortifier? Je vais terminer avec cela. Comment se fortifier? Ce n'est pas peut-être toujours évident. Mais c'est d'abord comprendre que nous lui appartenons. Donc d'abord, il faut être en lui, il faut se donner à lui. Et puis ensuite, d'agir en lui. Combien de fois nous nous agitons, nous nous préoccupons, nous faisons toutes sortes de choses sans être vraiment d'abord en lui. Parlons, agissons, mais sachons qu'il est avec nous si d'abord nous sommes en lui. Dans la prière, nous pouvons beaucoup prier, mais peut-être pas beaucoup être exaucés, parce que peut-être nous ne le sommes pas dans la volonté de Dieu, ou nous ne prions pas dans sa présence. C'est toujours la même chose, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons marcher en toute humilité et douceur, et dans l'amour, nous est écrit à partir du chapitre 4, après avoir été sauvés, nous devons marcher dans l'unité, contrairement à la vie païenne, en nouveauté de vie, dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le combat spirituel ne peut se faire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et même étant remplis du Saint-Esprit, nous allons être attaqués. Mais nous allons y faire face avec les armes de Dieu. Sans nous, dans nos propres forces, nous ne pouvons pas combattre. Nous ne pouvons pas aller à la pêche des âmes. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans n'importe quel service si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, par exemple, en Éphésiens, « Oh, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » C'est le Seigneur qui fait toute la différence. Vous n'avez jamais été tellement déçu parfois de quelque chose dans votre vie? Parce que peut-être vous avez dit des choses, vous avez fait des choses, comme moi j'ai dit, j'ai fait des choses. Puis donc je vous dis, mais est-ce que j'étais vraiment dans le Seigneur? Et là, on a honte, on est humilié. Parce qu'on réalise qu'on doit se repentir d'avoir dit ou fait des choses qui n'étaient pas dans le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte à nous fortifier. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple, on trouve qu'on doit se saluer les uns les autres dans le Seigneur. La communion fraternelle, la vraie qualité spirituelle entre nous, c'est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui fait la différence dans la communion fraternelle. Il est écrit aussi que nous devons travailler dans le Seigneur. Nous devons faire confiance aux autres dans le Seigneur. Nous devons être de même sentiment dans le Seigneur, à nous glorifier dans le Seigneur, à être des serviteurs fidèles dans le Seigneur, à se réjouir dans le Seigneur et à demeurer ferme dans le Seigneur. C'est tellement évident quelque part que c'est lui qui fait la différence. En fait, avons-nous le choix que d'être dans le Seigneur? Je ne sais pas vous, mais parfois je passe des moments difficiles où je sens une détresse et je suis obligé d'aller vers Dieu, m'humilier pour supplier Dieu de venir à mon secours. Et je pense à ce psaume, à ce verset en Deutéronome où il est écrit « Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Devant toi, il a chassé l'ennemi. » L'Éternel, psaume 9:9, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Vers qui irions-nous, frères et sœurs, si nous n'avions pas ce refuge ?» Dans mon ministère, avec mon épouse, nous avons eu parfois des personnes qui sont venues vers nous, liées par des mauvais esprits, sans en faire un développement à l'instant. Et le seul recours qu'ils avaient, ce n'était pas d'aller voir le pasteur, ce n'était pas d'aller demander la prière, ça c'est des moyens qu'on peut utiliser, demander l'aide des frères et sœurs, c'est d'aller vers Dieu lui-même, parce qu'il n'y a que Jésus qui libère, il n'y a que Dieu qui libère, qui offre la délivrance. Il faut être dans le Seigneur et s'assurer qu'on est dans le Seigneur. Et quand quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, qui a fait l'occultisme et qui tout d'un coup se tourne ou essaie de se tourner vers lui, puis a tout un tas de fardeaux sur lui, il faut qu'il confesse ces péchés-là pour pouvoir être pardonné, puis recevoir le Saint-Esprit, Jésus-Christ, qui le libère entièrement. Et j'espère, au travers des prochains messages, vous donner des exemples de personnes qui ont été libérées par la puissance de Christ. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il est écrit ici que oui, comment se fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je préfère la traduction littérale. Il est écrit dans Louis II par sa force toute puissance, mais en fait c'est l'inverse, c'est dans la puissance de sa force. Dieu est tout puissant, vous le croyez? Combien, hein? On croit beaucoup de choses de la part de Dieu, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Vous savez, il y a un homme qui a traversé un jour les chutes Niagara sur un fil, avec un homme funambule extraordinaire. Puis un jour, il a traversé avec une brouette. Et c'est formidable. Puis il a dit, est-ce que vous croyez que je peux amener quelqu'un à la brouette et traverser les chutes Niagara, au-dessus de Niagara? Tout le monde dit oui. Puis il a dit, qui est prêt à venir dans la brouette? Il n'y avait personne. Nous sommes comme ça avec Dieu parfois. Nous nous nourrissons, nous sommes gavés peut-être de Dieu. Mais est-ce que nous vivons vraiment Dieu et sa puissance? Nous disons qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et c'est merveilleux. On peut être assuré de sa présence, il est omniprésent. On peut être assuré de sa science, de toute connaissance, il est omniscient. Mais aussi, il est omnipotent. Il peut tout, le Seigneur. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et nous pouvons voir les miracles de Dieu. Le salut d'une âme, c'est un miracle. La délivrance, c'est un miracle. La guérison, c'est un miracle. À Dieu seul, disait Jude, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, dans tous les siècles. Amen. Et dans l'Apocalypse, il écrit « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. » Dieu est puissant, n'est-ce pas? Je crois qu'on tourne à ne me souviens plus, 50 mètres par seconde à l'instant chacun, dans l'espace, et on ne sait pas trop où notre galaxie se promène, dans l'univers, parmi les milliards d'étoiles, et pourtant on est là. Ça, c'est la grâce, mais aussi la puissance de Dieu qui garde toutes choses dans l'univers. Il est tout puissant, le Seigneur. Nous n'avons pas le temps, évidemment, de développer juste à l'instant cela. Mais regardons à Dieu comme un Père tout puissant pour nous, ses enfants, qui veut nous faire des cadeaux, le cadeau de sa présence, le cadeau de sa miséricorde, mais aussi le don précieux de sa puissance. Ensuite, Dieu nous communique sa puissance et sa force, comme Jésus l'a fait envers ses disciples. Jésus a assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Éphésiens 1,19, il est écrit, « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » J'aime bien lire les prières de l'apôtre Paul. Souvent nous prions pour un frère et une sœur, demandons « Seigneur, délivre-le, change ses circonstances, etc. » Et puis on lit la prière de l'apôtre Paul. Lui, il prie que les chrétiens aient les yeux ouverts, qu'ils découvrent ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Et peut-être au lieu de prier, peut-être se lamenter avec certains croyants dans les difficultés ou nous-mêmes, nous devrions prier que Dieu nous éclaire, illumine les yeux de notre cœur pour découvrir qui ? Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. Nous avons tout pleinement à lui. Peut-être vous avez des géants en face de vous. Il y a un homme un jour qui a osé défier un géant. Vous voyez dont je veux parler ? Qui ? David face à Goliath. Alors, je vais vous lire pour terminer les paroles qu'il a données. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. » Waouh ! Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quelle assurance ! Ça me fait penser aux disciples, après avoir été persécutés, Pierre et Jean, quand ils ont été persécutés par le Sanhédrin, ils sont sortis, ils ont témoigné de leur persécution. L'Église a prié afin de pouvoir prêcher l'Évangile avec assurance. Ils ont prié, et le lieu où ils étaient nous est dit, la terre trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce genre d'assurance dont on a besoin dans notre combat. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos mains. C'est pas merveilleux cela ? Moi je me réjouis de cela. J'ai envie un peu d'avoir du sang de David dans mes veines, pas vous ? Et d'avoir une telle assurance face à l'adversaire et aux obstacles. Alors nous avons vu ce matin que le Seigneur nous invite à nous fortifier. Parfois, nous sommes tellement faibles. Peut-être Dieu permet qu'on soit faible pour que lui soit fort en nous. Mais reconnaissons que nous avons besoin d'être forts en lui pour être dans ce combat et être victorieux. Dieu nous demande de nous fortifier à cause de nos faiblesses. Mais vraiment, nous sommes faibles. Notre impuissance naturelle à accomplir la volonté de Dieu et à accomplir les tâches qu'il nous donne. Et puis, nous sommes appelés à nous fortifier en lui. En lui, c'est merveilleux. Et par sa force, toute puissance, ou la puissance de sa force. Nous devons combattre un ennemi qui est plus fort que nous, les tentations, souvent qui sont les nôtres, mais nous ne devons pas les combattre par nos propres forces. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ce matin, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Amen. Prions, s'il vous plaît. Notre Père, notre bon berger, merci de ce que tu nous conduis. Par ta houlette et ton bâton, tu nous redresses, tu nous humilies, tu nous montres combien nous sommes faibles, incapables. Combien nos ambitions sont vaines souvent. Combien nous avons besoin de nous mettre à tes pieds, nous humilier, être brisés par la croix, comme ça nous a été rappelé ce matin. Merci de ce qu'on peut regarder à toi, à la croix, constamment, et croire sans douter que tu nous aimes d'un amour éternel, le même amour qui t'a poussé à la croix, et le même amour qui nous aime aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie Père dans ta bonté pour chacun de nous, que tu nous apprennes dans ta grâce à nous fortifier, à être forts. Je prie Père éternel que nous soyons une église forte, parce que faible, mais forte en toi. Au nom de Jésus. Amen.